Gloire à Dieu. Voilà, on prie le Seigneur, on présente ces moments au Seigneur qui nous conduisent par son esprit. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de lumière, un Dieu de grâce. Nous prions afin que dans cette soirée, tu te manifestes. Nous prions afin que dans cette soirée, tu ouvres encore les écluses des cieux et que nos cœurs, Seigneur, puissent être édifiés par ta parole. Seigneur, ta parole est édifiante, elle est vivifiante. Tu envoyas ta parole et tu l'es guérie. Merci parce qu'il y a auprès de toi, Seigneur, la guérison de toutes nos maladies. Nous pensons à tous les bien-aimés qui ont besoin de toi, Seigneur, en cet instant. Tu connais leur nom, tu connais leur souffrance. Te prions de les guérir dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia, amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, nous allons commencer donc ce temps de partage de la parole de Dieu. Donc comme on l'a eu fait, on a quand même toujours un petit peu enseigné à l'église Ciel Ouvert. Donc c'était les samedis matins et on ressent dans notre cœur que, voilà, en tout cas moi je ressens dans mon cœur, au vu du développement de l'Église, de sa croissance, etc., qu'il est important, notamment pour les nouveaux baptisés, donc il faut encourager tous ceux qui ont pris le baptême d'avoir un attachement particulier pour l'Écriture, pour la parole de Dieu, parce que c'est elle qui, dans les temps, les moments difficiles, nous tient. C'est elle qui, dans les temps où ça tempête dans nos vies, qui nous tient. Il y a des gens fragiles, la Bible parle même des faibles, la Bible dit supporter les faibles. Il y a parfois des faibles dans la foi, et ce qui nous tient, et ce qui nous tiendra jusqu'à la fin de notre vie chrétienne, c'est d'avoir de bons fondements. Vous voyez, en Normandie, ce qu'on peut noter, c'est le berceau du réveil, et on sent que les Normands, voilà, sont des gens qui aiment la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu, dans la période dite du réveil, ils ont eu de très très bons enseignants. En fait, la parole et l'esprit, ça décape, c'est puissant. Et donc, on ne doit jamais s'éloigner de la parole, de l'esprit. La parole sans l'esprit, ça peut être cassant, et l'esprit sans la parole, ça peut être déroutant, on peut faire n'importe quoi, aller dans toutes les directions. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on a accès à toutes sortes d'informations, dites religieuses, même spirituelles, mais comme vous le savez, donc tout ce qui brille n'est pas or, donc il faut toujours revenir à la parole. La parole a une autorité, amen. Il est écrit. Ça, c'est le leitmotiv de Jésus, notre Sauveur. Il est écrit. Que dit la parole de Dieu? Et même quand les gens sont découragés, Jésus, aux disciples d'Emmaüs, la Bible nous dit qu'ils étaient découragés, ils étaient tristes, mais l'Écriture dit qu'ensuite, après ce contact avec la parole faite chair, qui va expliquer la parole faite livre, ils vont dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» En fait, l'enseignement, c'est comme casser la coquille de la parole pour entrer à l'intérieur et puiser tous les éléments nutritifs pour notre santé morale et émotionnelle et spirituelle, bien sûr. Et je crois même physique. Je crois que la parole, elle a une puissance qui touche notre esprit, notre âme et notre corps. Elle est vivante. Et quand on passe du temps dans la parole, alors bien sûr, il y a parole et parole, il y a le logos, il y a le rhéma. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Il y a un verset qui parle de la parole qui est comme cachetée. Il faut que le Seigneur nous ouvre les textes, nous ouvre sa parole pour qu'elle devienne vivante et que ainsi elle produise de la foi. Amen. Si on veut plus de foi, il ne faut pas prier. La prière ne donne pas la foi. C'est la parole qui donne la foi. L'apôtre Paul dit « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » C'est la parole. Donc, c'est important, si vous êtes là ce soir, c'est parce que justement, vous aimez la parole de Dieu. Et donc, j'espère qu'au mois de février, quand il fera froid, quand il y aura des rhumes, que les gens seront fatigués, qu'on aspirera tous aux vacances, j'espère que vous serez toujours là, que nous serons toujours là, en train de plonger nos regards dans la loi parfaite de Christ, la parole de Dieu qui est source de vie. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens dans les cultes. Il y a beaucoup de gens dans les dimanches matins, on célèbre, mais on ne veut pas être des chrétiens du dimanche. Et ça, c'est malheureusement, c'est un peu ça aujourd'hui. On se limite à une réunion par semaine et on trouve qu'on fait des exploits. Mais moi, je lis dans la Bible parce que notre modèle par excellence, c'est la Bible. Et la Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Ils se réunissaient chaque jour. C'est pas trop, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que le monde est desséchant, la vie est desséchante. Et on a besoin, la parole de Dieu, elle vient à nous de toutes sortes de moyens. Vous savez, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Je relisais dans ma lecture personnelle, Dieu va parler par un Égyptien, un écho, qui était un païen, et il va parler de la part de Dieu à un certain roi qui n'a pas pris garde. Vous voyez, Dieu, il parle de toutes sortes de manières. Dieu peut parler même par des inconvertis. Et on doit écouter la voix de Dieu. Et quand on écoute la voix de Dieu, on réussit dans notre vie. La parole de Dieu nous donne de la réussite. Psaume 1er. Si on est planté près d'un courant, l'homme qui est planté près d'un courant d'eau, c'est l'homme qui médite la parole de Dieu de temps en temps. Vous savez, les soucis, c'est quoi ? Les soucis, c'est méditer les difficultés. Et ça génère de l'inquiétude. Et quand on médite la parole de Dieu, alors on est bien dans notre âme, on est bien dans notre tête, on est bien dans notre cœur. Et c'est un encouragement. Le Seigneur disait, je fais une introduction sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, la place de la parole de Dieu dans la vie du disciple. On va étudier tout le planning jusqu'au mois de juin, il est prêt. Donc on va étudier, et le but de ces études, de ces cours, c'est qu'on soit des disciples établis, solides. Il y a des papas, des mamans hein, ici, spirituels, qui sont établis, etc. Donc ça va être des rappels, mais il y a aussi des tout nouveaux qui ont besoin eh bien, d'entendre des choses. La parole de Dieu est nécessaire. Mais vous êtes d'accord avec moi, les plus anciens, un bon pain frais, ça fait du bien. Hein? Quand on dit, moi j'ai cette pensée en ce début d'année scolaire, une nouvelle onction pour une nouvelle saison. On ne va pas apporter quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle onction, de nouvelle vague. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui fait que l'onction est nouvelle, c'est qu'elle est fraîche. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit, mais le pain d'aujourd'hui, il est frais. Et en fait, de se nourrir constamment de la bonne parole de Dieu, même si on sait les choses, combien de fois on a... Vous savez, des fois, on peut dénigrer... Un pasteur dit le dimanche après-midi, je vais prêcher sur Zachée. Alors là, tu as tout l'auditoire des frères et sœurs qui disent, oh, Zachée, on connaît. Mais en fait, la Bible, c'est un diamant. Et un diamant, ça a multifacettes. Et si l'Esprit nous révèle à ce moment-là une vérité, une facette qu'on n'avait pas vue, eh bien, ça devient lumière et ça nous fait du bien. Amen. La parole de Dieu, c'est de la bombe. Et c'est pour ça que Dieu disait à Josué, quand Moïse est mort, il lui dit, médite ce livre, jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Si tu médites, si tu es près de la parole de Dieu, tu vas réussir. Un chrétien qui est établi dans la parole de Dieu, il réussit sa vie affective, il réussit sa vie professionnelle, il réussit sa vie relationnelle, il réussit sa vie. Et surtout, il réussit à accomplir les plans parfaits de Dieu dans sa vie, parce que Dieu a des plans pour nous, amen. Dieu a des plans pour l'Église, Dieu a des plans pour l'Assemblée, et Dieu a des plans pour chacun et chacune d'entre nous. Vous me regardez avec des yeux, ah, il rentre de vacances, il est en forme, c'est bien. Gloire à Dieu, ses mamelles sont pleines de lait, gloire à Dieu, je blague. Alors, J'ai un thème qui est sur mon cœur, donc c'est le monde invisible. Le monde invisible. Alors on va commencer, je vais lire dans Colossiens pour introduire cela, dans Colossiens au chapitre, Colossiens chapitre 1er, la pluie de Normandie, la bonne pluie. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Je vous lis. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, alléluia, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est une réalité. On va parler, en fait, pendant plusieurs mardis, on va parler des ténèbres, on va parler du monde obscur qui est une réalité invisible. Mais la Bible dit, il nous a transportés, donc, des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être très clair, très clair. Il nous a transportés, donc il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il ne faut pas s'y tromper, Satan, les démons sont puissants, mais Christ est encore plus puissant. Jésus est le Dieu et le Père des esprits, et le Père des esprits. Verset 14, « En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés ?» Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, je dirais tout d'abord, on voit ici au verset 16, qu'il y a des choses, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. En fait, il existe un monde visible, on voit, on l'a repéré, donc je vois, j'allais dire l'apôtre Pierre, je vois Pierre, donc on t'avait fait un petit cadeau pour que tu scrutes les étoiles. D'ailleurs, c'était quand tu étais là, Roland, c'était ce jour-là. Oui, tu avais prêché sur les lieux élevés, d'ailleurs. Et donc, Pierre, on lui avait fait un cadeau pour qu'il scrute les étoiles, un télescope, voilà, et il fonctionne aujourd'hui? Tu as réussi? Attention, là, il faut que ça marche. Et donc, on a repéré les étoiles, on les a nommées. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu donne à toutes des noms, à toutes les étoiles. Donc, il existe un monde visible. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il parle de trois ciels. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, ce qui est sûr. Ce qui est sûr. On ne va pas faire de philosophie ésotérique, mais ce qui est sûr, c'est que notre ciel, c'est le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. On voit la lune, les étoiles, etc., le soleil, ça c'est notre ciel, notre atmosphère à nous, et la terre. Donc tout cela, c'est les visibles. Nous sommes des êtres visibles. Mais, dit l'apôtre Paul, Dieu n'est pas le créateur que de la terre, des choses visibles, il est aussi le créateur des choses invisible, trône, dignité, domination, autorité. Dans le monde visible, il y a des autorités. Elles s'appellent des autorités politiques, elles s'appellent des autorités militaires. Quand la police ne peut plus gérer, on envoie l'armée. Donc il y a des autorités donc référencées. Mais dans le monde invisible, il y a aussi des autorités. Et le monde des esprits reconnaît l'autorité. Vous vous rappelez des fils de Séva qui ont voulu à un moment donné, les fils de Séva, ils étaient sept. Ils avaient une religion, mais ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Et ils ont voulu s'investir d'un rôle, d'une autorité spirituelle qu'ils n'avaient pas. Vous voyez ? Moi, je me dis toujours, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi, quoi ? Vous dites ça, vous aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il m'a choisi. Et en fait, toute autorité, dit l'Écriture, est voulue de Dieu, est établie par Dieu. Une autorité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle exerce un pouvoir. Elle exerce un rôle. Elle tranche. Le symbole de la justice, c'est l'épée. Et donc, il existe des autorités naturelles et il existe des autorités spirituelles. Et vous voyez, quand les fils de Séva ont voulu s'investir d'un rôle, ils n'avaient pas été qualifiés pour ça, ils n'avaient pas été choisis. Alors, est-ce qu'ils étaient, convertis ou pas ? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'avaient pas l'autorité pour faire ce que Paul, lui, pouvait faire. Puisqu'ils vont dire, ils voulaient chasser le démon au nom de celui que Paul prêche. Déjà, c'est vague, ce n'est pas précis. Hein. Le nom qui chasse les démons, Jésus disait dans Marc 16, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc, les armes avec lesquelles, dit Paul, nous combattons, elles sont puissantes. Et le nom de Jésus dans quelqu'un qui vit une vie de piété authentique est une puissance. Voyez, le nom de Jésus prononcé par une bouche qui pratique la parole de Dieu est une autorité. En fait, si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis, ça devient réel. Si notre foi et prend sa source dans un cœur repentant, etc., ça devient une autorité. Mais si quelqu'un utilise le nom de Jésus de façon superstitieuse, sans avoir une vraie relation avec Dieu, ça va être un exorciste, si vous voulez, mais il va se faire massacrer, il n'aura pas l'autorité. Vous savez, je veux dire aussi ici, en introduction, pour parler du monde invisible et tout ça, je veux dire aussi que je veux faire attention à ce que je dis, parce qu'après c'est balancé sur Internet. Je veux bien dire qu'un chrétien ne peut pas être, il y a un pasteur qui est là, il ne peut pas être possédé. Un chrétien, on est bien d'accord, j'établis ça, hein, un chrétien, il ne peut pas avoir de mauvais esprit en lui. D'accord ? Des fois, c'est embêtant que ce soit enregistré. Hein. Il faut réfléchir avant de parler. Hein. Par contre, un chrétien rétrograde. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est parlé du gâteau à moitié cuit. On le verra tout à l'heure ou la prochaine fois, ou les prochaines fois. Un chrétien moitié cuit. Il y a des choses il y a des portes d'entrée au mauvais esprit. Par exemple, le non-pardon. Bible en main, on le verra, pas ce soir, j'introduis, mais le non-pardon, la Bible dit qu'on donne à Satan l'avantage. L'avantage. Or, Dieu veut qu'on soit des plus que vainqueurs. Pour moi, vous êtes comme moi, vous regardez des matchs de foot, des fois, celui qui joue le moins bien, il gagne, parce qu'il est chanceux. Mais ça, ce n'est pas un plus que vainqueur. Il a eu de la chance à un moment donné. Mais un plus que vainqueur, c'est celui qui joue bien et qui gagne bien. Qui met 6-1, par exemple, tu vois, il a bien gagné et il a bien joué. On est plus que vainqueur. Mais il y a des chrétiens partagés. Et la Bible dit que quand le cœur est partagé, on en subit la peine. C'est écrit. On en subit la peine. Quand on n'est pas tout entier à Dieu, quand il y a dans notre vie des non-pardons, des vieilles rancunes contre un tel, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir une vie épanouie, de ne pas avoir une vie chrétienne de qualité. Quand on s'habitue à être en colère, il y a des chrétiens colériques qui sont soupaulés. Qu'est-ce que tu veux, pasteur ? C'est mon tempérament, moi je monte vite en température, je ne supporte pas, ce n'est pas bien. Moi je vois quelqu'un sous influence. Parce qu'un chrétien, bien sûr, Jésus s'est mis en colère, vous êtes d'accord, mais il ne vivait pas dans le jus de la colère. Il n'était pas colérique, il n'était pas déterminé, c'était intentionnel. Ce jour-là, il savait ce qu'il faisait. Et Jésus est toujours en parfaite maîtrise de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Mais un chrétien qui vit dans le non-pardon et qui vit dans la colère, d'ailleurs c'est écrit, on le verra aussi dans les Éphésiens, ne donnez pas accès au diable, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire qu'il faut régler le truc et il faut dormir dans la paix, il faut dormir dans la joie. Pourquoi ? Parce que tu risques d'être visité par le diable. C'est en fait, il y a une porte là-bas, elle est ouverte. Elle est ouverte. Eh bien, le non-pardon qui amène la colère, eh bien, ouvre des portes dans ta vie à des puissances de ténèbres. Et c'est pour ça, moi je vais plus loin, même si c'est enregistré, c'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup de gens déprimés. Il y a beaucoup de gens qui sont sous traitement, il y a beaucoup de gens qui font attention à tout, qui sont toujours stressés, parce que les relations... Vous savez, le diable se régale, il se régale quand il voit des chrétiens qui n'ont pas pardonné, parce qu'il les ramène à lui. Vous savez, Jésus nous a libérés, il nous a libérés de l'Égypte, oui ou non ? Mais l'Égypte nous court derrière. Et l'Égypte ne fait pas que nous courir derrière, l'Égypte est en nous. Et notre plus grand ennemi, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas notre prochain, c'est nous-mêmes, c'est notre chair, c'est notre cœur. La Bible dit que le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Donc, croyez-moi, on a assez à faire avec nous. Amen. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec les gens. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, la tête, on nous la prend facilement des fois. Hein, bon, mais ça, c'est comme ça. Donc, on parle des choses que Dieu a créées. En fait, il existe des choses visibles et invisibles. Et elles sont des réalités, des trônes, je reviens, des trônes, donc des autorités. Et vous allez voir, quand on parle du diable, en fait, beaucoup de choses dans la Bible ont un rapport avec l'exercice de l'autorité et du pouvoir. La cause de la chute de Satan est un problème d'autorité. C'est un esprit de rébellion. Et la créature est marquée par ça. Voyez-vous, la première des choses, quand Satan est venu dans le jardin, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, le péché caractérisé. Bien sûr, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il a appâté avec quelque chose de beau et de bon. Mais Satan, il est passé par en disant, mais tu peux manger, vous serez comme des dieux. Voyez ? Sérieux ? On sera comme Dieu ? Oui, 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 vous serez comme des dieux. Il les a enflés, en fait. Et Satan, c'est le mystère de l'iniquité, c'est ça. C'est l'orgueil. C'est terrible, l'orgueil. Et Satan a voulu s'élever au-dessus de Dieu, et on va le voir. Alors, je veux lire, parce qu'il est question donc de trône, de dignité, de domination, d'autorité. Ça tourne autour de ce sujet-là, la chute de Satan. Dans Hébreux 11, donc il existe des choses visibles et invisibles. Deuxièmement, je dis, le visible vient de l'invisible. Dans Hébreux 11, il est dit ceci, Hébreux 11, au verset 1er, évidemment, pour croire ces choses, il faut la foi. D'accord ? Moi, je ne cherche pas à prouver que le monde invisible existe. C'est par la foi qu'on croit ces choses-là. On le croit ou on ne le croit pas. Nous, vous êtes là, nous croyons au monde invisible. Amen. Alors, il est dit dans Hébreux 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi... Les anciens ont obtenu un témoignage favorable, favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne la voit pas. On est bien d'accord. Mais on l'entend, par exemple. Eh bien, c'est invisible, mais c'est réel. Et on sait comment Dieu créa les cieux et la terre par quelques paroles, que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et Dieu a créé toutes choses par la parole, et nous le croyons, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, le visible tire sa source de l'invisible. Les choses invisibles, je dirais, je continue, sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Il est dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Donc vous voyez, il y a toujours ce truc des choses visibles et des choses invisibles. Et il est dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Jésus a dit, vous vous rappelez, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc les paroles de Dieu sont éternelles, les choses invisibles sont éternelles. Elles ne sont pas que éternelles, la Bible dit qu'elles sont parfaites. On lit dans Romains, et il est question des perfections invisibles de notre Dieu, dans Romains chapitre 1er, Romains chapitre 1er et verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, il existe des choses visibles, invisibles. Le visible vient de l'invisible. Il y a des choses invisibles qui sont éternelles, parfaites, comme les perfections de notre Dieu. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, c'est de notre ennemi, le diable, qui lui aussi est une entité invisible, invisible, mais bien, bien réelle. Alors, j'ai pensé peut-être que à un moment donné, quand on partage comme ça la parole de Dieu, il peut y avoir des questions quand j'apporte comme ça. Donc ce qui pourrait être bien, je dis juste pour la sono, c'est d'avoir un autre micro et que si quelqu'un à un moment donné a une question qui est pertinente, vous pouvez l'écrire et me la faire parvenir. Et moi, comme ça, je vois si pendant le message, je peux rebondir dessus. Et ça peut être intéressant. Vous ne trouvez pas ? Voilà, parce qu'on avance des informations, mais peut-être ça, à certains moments, ça peut nécessiter une précision, voire une correction, hein, moi il n'y a pas de souci, mais en même temps ça peut être interactif et intéressant. C'est le but de l'étude biblique, c'est pas une prédication, c'est vraiment une réflexion, on réfléchit sur les choses. D'ailleurs la Bible dit « celui qui réfléchit trouve le bonheur », amen. Donc on réfléchit ensemble sur les choses. Donc Satan, notre adversaire, le diable, ces choses invisibles, ces ténèbres, ces puissances existent. Alors Satan, ce qu'il était à l'origine, Satan, je parlais de l'orgueil, n'a pas toujours été un être méchant et cruel. Il n'a pas toujours été l'adversaire de Dieu. Au départ, c'était quelqu'un, je dirais, de sympathique. C'était une bonne créature. C'était une créature créée par notre Père, par le Seigneur lui-même, qui était appelé un chérubin. Alors, un chérubin, c'est quoi ? C'est un être angélique dont la forme est composée de celle de l'homme, c'est étonnant, hein, du taureau, du lion et de l'aigle. Et ces trois animaux sont symboles de force et d'intelligence. Ces animaux, hein, donc c'est à part l'homme. Les chérubins, ce qui est étonnant, c'est une réflexion, ils étaient présents dès le jardin d'Éden. Vous voyez, on voit à un moment donné dans Genèse au chapitre 3 et au verset 24 que ce sont eux, ils ont été le gardien de l'Éden. Mais à ce moment-là, Satan était déjà tombé. Il avait déjà été précipité et il avait déjà perdu son rang puisqu'il s'est glissé dans le jardin d'Éden. Satan est un chérubin, on le voit à partir d'Ézéchiel, dans Ézéchiel, au chapitre 28 et au verset 14. Il est dit ceci, Ézéchiel 28, verset 14, « Alors tous les commentateurs bibliques s'accordent pour dire que le texte d'Ézéchiel que l'on lit ici s'adresse dans un premier temps au prince de Tyr, qui dépasse son cadre et qui fait référence à Satan lui-même. » Et il est dit dans Ézéchiel 28, verset 14, « Alors juste, j'ai oublié de le dire, mais je le dis, vous aurez à l'issue de cette session sur le monde invisible, vous aurez les notes. On vous donnera toutes les notes à l'issue de cette étude. » Ézéchiel 28, verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais, c'est Dieu qui parle, installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Voyez ce qu'on peut devenir si on ne veille pas. L'orgueil, c'est terrible. C'est pour ça que Dieu permettait que l'apôtre Paul ait une écharde dans sa chair pour le garder de l'orgueil. C'est moche l'orgueil, frères et sœurs. C'est moche l'insoumission. Vous savez comment on peut savoir si on est orgueilleux ? C'est quand on nous marche sur les pieds. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça te vexe ? Quelqu'un, allez, je vous parle avec mon cœur, quelqu'un de susceptible, il y a quoi derrière la susceptibilité ? Il y a de l'orgueil. Quand on se sent surqualifié pour faire une petite tâche dans l'église, c'est quoi ? Oh ben non, moi je vous dis, j'ai demandé à certains des fois de faire une tâche. Ah non. Je ne vais pas le dire parce que c'est enregistré. Mais des fois, j'ai été choqué, frères et sœurs. Et là, je ne vois pas le cœur de Dieu. Voyez, je prêchais sur ça cet été, sur les leçons de David et Goliath. Et moi, je suis émerveillé par le cœur de David, par l'humilité de David. Roi qu'il était, David, quand le prophète va venir et va lui dire, « David, tu es cet homme-là. » David avait l'humilité de reconnaître qu'il était un pécheur. À la différence de Saül, « Honore-moi devant les anciens !» Lui, ce qui comptait, c'était son apparence. Ce qui comptait pour David, c'était sa relation. Il disait, il voulait le cœur de Dieu, David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Il voulait une relation avec Dieu, avant tout. Mais quand David, avant d'aller vers Goliath, en fait, David, quand il s'est levé le matin, c'était un roi, il avait reçu l'onction royale. C'est comme, tu sais, comme moi, je suis choisi pour être pasteur de cette église. J'y peux rien, même si on me crache dessus, même si on me dit, mais t'es le meilleur, ou comme dit, t'es nul. Ça n'enlève en rien le fait que Dieu m'a choisi. Tu comprends ce que je veux dire? On peut nous valoriser, nous dénigrer, ça n'a pas d'importance. Quand on est choisi par Dieu, c'est un instrument que j'ai choisi. Ça, je parle de Paul ici, Saul de Tarse. C'était encore Saul de Tarse, mais Dieu l'avait choisi. C'est comme ça, on peut ne pas être d'accord avec Dieu, mais après, c'est ton problème si tu n'es pas d'accord avec Dieu. Mais David, il est choisi roi, il a une onction fraîche, il est puissant, il est tout ce que tu veux, il a le potentiel d'un roi en lui. Son père, vous connaissez l'histoire, il va l'ignorer, il ne va même pas l'inviter, tout ça, mais il va lui confier une petite tâche. De coursier, tu vas aller envoyer, tu vas amener du fromage à tes frères, tu vas aller, ils sont sur le champ de bataille là-bas, mais c'était une guerre froide. Hein. Vous savez ce que c'est une guerre froide? On se dit des choses, mais on ne fait jamais la guerre, en fait, parce qu'on a peur. Mais là, ils étaient en guerre froide depuis 40 jours. Mais à un moment donné, David, il va déclencher la guerre à son adversaire. Parce que c'est une chose de parler, c'est autre chose d'agir. Jésus a enseigné et il a fait, nous dit la parole de Dieu. Il a enseigné et il a fait. Donc, David, il se retrouve sur le champ de bataille parce qu'il a obéi à une petite consigne. Tu vas être le coursier de tes frères. Et David nous donne une leçon d'humilité, mes amis. David, ce n'est pas un coursier. David, c'est un roi. Et pourtant, et parce qu'il a été fidèle, il va se retrouver là sur le champ de bataille. Le matin, il se lève comme un inconnu. Le soir, il se couche comme un héros national. C'est quoi qui a fait la différence à la base? Ce n'est pas son courage et son onction, c'est son cœur. C'est son humilité. Et voyez, quand tu veux une place, tu perds la place. Quand tu veux monter, tu descends. L'ambition, ce n'est pas bon. Avoir une vision, c'est excellent. Quand on a une vision, quand tu as une vision de Dieu, on peut déchirer ta robe, mais on ne peut pas déchirer l'appel de Dieu sur ta vie. Parce que l'appel, ce n'est pas à propos de ma réalisation, c'est à propos de ce que Dieu veut faire au travers de moi, c'est tout. Donc, peu importe, encore une fois, ce qu'on peut dire et tout ça, laisse tomber. Je vous donne juste la deuxième leçon de sagesse, mais comme là j'avais Luc Dumont aujourd'hui, il va me donner du travail celui-là, parce qu'on va aller plus dans les médias et tout ça, et je vais sans doute faire une capsule vidéo là-dessus. Sur la deuxième leçon de sagesse de David et Goliath, c'est une leçon d'humilité, et deuxièmement, leçon de sagesse. Mais bon, je ne vais pas vous le dire, vous regarderez la vidéo. L'orgueil, ça a été le point de chute de Satan, notre adversaire, qui était un beau chérubin, une belle personne, une belle créature, mais il est devenu moche et méchant. Pourquoi ? Parce que l'orgueil, c'est un mystère. Me dites pas comment ça se fait, le mal, d'où vient le mal, tout ça. Il y a Roland qui est là, vous pourrez aller le voir. Ils ont une sagesse supérieure à la mienne. Mais peu importe. Il y a des questions, on ne sait pas tout, mais ce que l'on sait, on peut le prendre et le mettre en pratique et puis combattre après notre adversaire, parce que c'est le but quand même. Donc l'orgueil est venu dans son cœur, on voit cela, donc Ézéchiel 28, 14, donc c'était ce qu'il était. Ésaïe, chapitre 14, Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14, il est dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Il y a beaucoup de jeux. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Je tombe. Ézéchiel 28, verset 2. Ézéchiel encore un peu plus, on a lu 28, verset 14, verset 2. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. » Et Dieu dit, « Toi tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Vous savez, il y a des gens, des fois, ils viennent me voir, « Pasteur, Dieu m'a dit !» Il y en a, Dieu leur dit tout le temps des choses, tu vois. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Attention, frères et sœurs, de ne pas prendre notre volonté pour la volonté de Dieu, ça peut être aussi de l'orgueil qui se cache derrière. Vous voyez ? Enflé d'orgueil, nous dit la Bible, par des visions. C'est écrit, je ne l'invente pas. Donc faisons attention à tout cela. Je me suis mis un chronomètre. Donc Satan, bien sûr, est aujourd'hui encore actif. On voit maintenant un autre aspect, ses noms et ses actions sur la terre et envers les hommes. Satan a plusieurs noms dans l'Écriture. Satan, d'abord, j'en parle, ça veut dire adversaire, à la fois de Dieu et des hommes. Alors le but de ces moments, ce n'est pas de vous faire flipper, d'accord, et de voir Satan partout, hein. C'est une créature, hein, sous contrôle d'ailleurs. On l'appelle aussi le malin, Satan, le malin, c'est-à-dire celui qui fait le mal à chaque fois qu'il le peut. Pour lui, toutes les occasions sont bonnes. Vous vous rappelez, quand il a tenté Jésus dans le désert pendant 40 jours, au bout des 40 jours, il s'éloigna de lui parce qu'il lui a résisté jusqu'à un moment favorable. Satan n'est pas fair-play. Hein. Satan, il cherche. C'est un lion rugissant, cherchant. Donc, il cherche. Les démons également. Les démons, ils cherchent aussi. Hein. Ils cherchent du repos, ils cherchent à entrer, ils cherchent des maisons. Donc, il y a une vraie guerre. Hein, d'accord ? Donc, celui qui fait le mal, le malin, chaque fois qu'il le peut. Satan, il est appelé aussi le diable. Littéralement, ça veut dire le calomniateur, l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, qui ça ? L'accusateur de nos frères et sœurs. Celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » La calomnie, il exerce devant les hommes en insinuant que Dieu n'a pas de bonnes intentions envers sa créature. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait, donc il insinue, il calomnie, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il fait croire à Adam et Ève que Dieu n'a pas de bonnes intentions. Vous avez déjà entendu cette expression « procès d'intention » ? Satan fait un procès d'intention à Dieu. Il a dû touper quand même. Dieu ne t'aime pas vraiment. Si Dieu t'aimait vraiment, tu ne passerais pas par autant de difficultés. C'est ce qu'il fait, le diable. Il utilise parfois des hommes, comme les amis de Job, pour lui faire un procès d'intention. Si tu vas mal, c'est parce que tu as un problème dans ta vie. Si tu es malade, allez, on est entre nous. Si tu es célibataire, c'est que tu as un problème. Vous rigolez, mais moi, combien de fois je l'ai entendu, ça, malheureusement. Parce que les gens, ils ne comprennent pas que Dieu prend le temps pour faire les choses. Il prend le temps. Et les gens simplistes, ils portent des jugements hâtifs sur des choses que Dieu fait et qui sont belles. Et comme on le dit souvent, il faut un jour pour faire un champignon. Mais il faut des décennies pour faire un chêne. Et il y a, des fois, même on est emprisonné par des concepts de bonheur. Vous savez que le vrai bonheur, il y a plein de gens qui sont seuls et qui sont heureux. On n'est pas obligé d'être marié, d'avoir des enfants pour être heureux. Vous le savez ? Que parfois, être marié, avoir des enfants, c'est même une source de malheur. Bon, mais ça, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que Satan, c'est un calomniateur. Et il utilise parfois des bien-aimés pour nous faire passer à côté de notre destinée. Regardez, Pierre, il est rempli de l'Esprit. Enfin, il n'est pas rempli, oh là, c'est pas la Pentecôte encore. Il a une inspiration, une révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Quelques temps après, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus parlait de la croix, c'était sa destinée. Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Parce que derrière Pierre, qui avait des pensées toutes humaines d'ailleurs, très rationnel, comme notre frère disait dimanche, les raisonnements, c'est logique. Mais l'Église, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, la foi. Ce n'est pas logique de sortir du bateau. Ce n'est pas logique de construire une église à 2 millions. Ce n'est pas logique si Dieu nous demande d'en faire une à 5 millions. Ce n'est pas logique. Il y aura des gens bien intentionnés qui vont dire, il est encore fou. Voilà, il est fou, il entend des voix, prions pour lui, vous voyez. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas logique toujours. Mais il faut être conduit par le Seigneur. Donc, en fait, la calomnie, il calomnie Dieu devant les hommes en insinuant que Dieu n'a pas de bonnes intentions envers sa créature, mais il calomnie aussi les hommes devant Dieu. Et ça, c'est le cas de Job. S'il te sert, c'est parce que tu le bénis. Enlève-lui tout et tu verras qu'il te maudit en face. Mais Job n'était pas de cette trempe-là. Il calomnie, c'est un calomniateur. C'est un accusateur et un calomniateur. Ça, c'est son nom, le diable. C'est ce que ça signifie. Donc, ses noms et ses actions. Donc, ne donnons pas, j'ouvre une parenthèse, je la referme, ne donnons pas du grain à moudre à Satan.
Hey, tu connais la dernière, tu as vu le frère, tu as vu la sœur. Et dans l'église, ça, Satan, il se régale. Il se régale. Parce qu'après, les gens, ils sont pleins de mauvaises pensées, parce que la guerre spirituelle, c'est dans la tête. Alors, ne me demandez pas si Satan, il connaît nos pensées. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Roland? Tiens, est-ce qu'on peut vite le micro? Parce que les questions trop difficiles, mais après, je continue. Est-ce que Satan, tiens, on a un pasteur, on va en profiter, et franchement, on a un bon pasteur, Roland, il a une sagesse particulière. Donc, alors, est-ce que Satan peut lire nos pensées?
Satan, il a accès à nos pensées, parce que nos pensées sont un champ de bataille. Le Saint-Esprit a accès à nos pensées, Satan a accès à nos pensées. Celui que nous acceptons, c'est celui qui délivre notre être. Et donc, Dieu a donné l'âme comme un tamis pour filtrer ce que reçoivent nos pensées. Si nos pensées reçoivent des mauvaises choses, l'âme dans laquelle se trouve notre connaissance, notre réflexion, notre méditation, dira attention, ce que tu reçois là, ça fait pas de Dieu. Faisons bloc. C'est pourquoi nous devons prier pour que l'âme soit toujours en éveil.
Amen. Merci pour la précision. Donc, ce que je veux dire, c'est que Satan, le calomniateur, l'accusateur, il peut mettre dans les pensées des frères et sœurs. Et des fois, on se dit à l'église, mais pourquoi c'est lourd la réunion? Parce que les gens, ils ont plein de mauvaises pensées, de mauvais sentiments. Vous savez que les pensées, les émotions, c'est extrêmement relié. Il y a un effet de cause à effet. Quand je pense à la misère et à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand j'ai des pensées négatives sur un frère, parce que quelqu'un qui est au service de Satan, sa majesté, eh bien, il pollue ton environnement, il pollue ton cœur, il pollue ton âme et il pollue ton frère et ta sœur. Et ce qui fait que parfois, l'atmosphère, on doit jeûner, prier, chercher la face de Dieu et libérer comme le vent du Saint-Esprit toutes les mauvaises pensées par la parole, par l'enseignement. Mais des fois, tu sens dans l'atmosphère que les gens, ils ne sont pas spirituels, quoi. Parce qu'ils sont ouverts à des choses mauvaises. Et Satan, c'est un calomniateur. Vous avez remarqué dans Genèse, Dieu dit, il crée, c'est beau, c'est bon. Satan dit, elle écoute, elle met en pratique, et Dieu ne parle plus beaucoup. Hein. Après, Dieu ne parle plus autant. Il parle à des hommes choisis. Et c'est ponctuel. Et pour entendre la voix de Dieu, non, Moïse, ne nous parle, que Dieu ne nous parle pas à toi, vas-y, parce que Dieu, c'est... Mais c'est compliqué après, vous voyez. Donc, il faut fermer notre oreille aux accusations de Satan. Et vraiment, je vous en prie, on forme des disciples, hein. Je vous en prie, si on veut une église saine et solide, ne reçois pas d'accusation. La Bible dit ça, ne reçois pas d'accusation. Si on parle mal de ton frère, de ta sœur, ne reçois pas. On n'est pas appelé à maudire, on est appelé à bénir. C'est ce que dit Pierre, vous êtes appelé à bénir. Imaginez comme ça serait glorieux, on aurait tous confiance les uns envers les autres, là, ça serait transparent, ça serait libre, il n'y a pas de truc derrière la tête, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, pourquoi nanana. Le monde invisible, mes amis, qui produit le visible. Pourquoi il y a des divisions dans les églises? Parce qu'on est ouvert à une mauvaise voie. On est ouvert, on est trop ouvert. Donc ferme les portes et domine sur le mal. Il est aussi appelé le tentateur. Le tentateur. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset... En fait, j'avance. Hein. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, dit Paul, il n'en pouvait plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Moi, j'ai vécu ça en tant que pasteur. Dans certains endroits où je suis passé, j'ai vu après l'œuvre de Dieu se détruire. Et où ce qu'on avait fait n'était plus là. Pourquoi? Parce que le tentateur était passé par là. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, dit « c'est Dieu qui me tente ». Chacun est tenté par sa propre convoitise, puis ensuite il y a un processus de tentation que l'on peut connaître. Et derrière la tentation, il y a le tentateur. C'est son nom. Un autre nom de Satan, c'est le dragon. Le dragon. Alors là, quand on lit dans l'Apocalypse, on voit le serpent ancien qui est devenu le dragon. Il a pris du poids, il a pris de l'embonpoint, il a pris de l'autorité, il a pris de la puissance. C'est le dragon, c'est la personnification de Satan, le serpent ancien, ou encore le Léviathan. On trouve ça dans Ésaïe 27, verset 1er. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard, oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est une personnification de Satan, le monstre qui est dans la mer. C'est un nom de Satan. Il est Belzébul, c'est-à-dire le chef, le principal des démons, dieu du fumier ou maître de la maison. Et Jésus en a parlé. Les pharisiens en ont parlé. Ils diront ceci, Matthieu 12, verset 24. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. J'avance, parce que j'ai beaucoup de matière en fait. Bélial, c'est aussi un nom de Satan, Bélial. Ça signifie indignité. Fils de Bélial, ça veut dire Jean pervers. On l'appelle aussi Lucifer. Lucifer, c'est étoile du matin, être lumineux. Merci Camille. Être lumineux. Donc 2 Corinthiens 11, verset 14, il est dit, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise. En quoi ? En ange de lumière. Encore un autre nom, l'ange de l'abîme, Abaddon et Apollyon, destruction, perdition. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, je vous le conseille. C'est un très, très, très beau livre. C'est le livre du voyage du pèlerin que j'ai lu, moi, rapidement après ma conversion et qui m'a beaucoup aidé et c'est un best-seller. Il est enseigné dans les écoles anglaises. Et il est, je crois, le deuxième livre le plus lu au monde, Le voyage du pèlerin, qui a été écrit par John Bunyan, et il appelle de ce nom-là Apollyon, Abaddon, destruction, perdition, l'adversaire comme cela. Je continue, on l'appelle aussi le dieu de ce monde ou de ce siècle, qui a ses serviteurs, ses doctrines, ses sacrifices et même ses synagogues à l'origine des sectes. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il est le prince de ce monde qui influence les gouvernements de ce monde. » On voit cela dans Jean 12, verset 31. « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Et Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus beaucoup, dit Jésus avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Donc le prince de ce monde, il est le prince de la puissance de l'air, chef des anges mauvais, des anges déchus. Et déçu sans doute. Un autre nom, il y en a un paquet, parce qu'en fait, vous avez compris, derrière tout cela, on pourrait même creuser un peu plus, mais il me reste 8 minutes, derrière tout cela, le prince de ce monde, le prince à puissance de l'air, on pourrait parler des communications, des réseaux sociaux, tout ça, c'est pour ça que c'est important qu'on y soit. Encore ce matin, il y a un frère, je t'ai vu, il me disait, à la prière, il disait, frère, nous, ça nous a fait du bien, les messages, les cultes pendant le Covid. Et combien de frères et sœurs m'ont dit cela, et même de païens qui ont été édifiés. Et on doit être présent dans ces choses. Vous savez, moi, je vais faire des vidéos, vous allez voir paraître tout ça. Ce n'est pas pour m'amuser, c'est pour prendre la place de l'adversaire et influencer. On est le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, il faut briller dans les ténèbres. Et il est un autre nom important, le père du mensonge. le père du mensonge. Et ça, c'est quelque chose, on pourrait parler là-dessus, hein. C'est un menteur. Peut-être en ce moment, tu es découragé. Tu sais pourquoi ? Parce que le diable te harcèle, il te ment. Et comme tu crois ces mensonges, tu crois que tu n'as pas de valeur, tu crois que personne t'aime, tu crois que ceci, tu crois des mensonges. Et comme tu crois des mensonges, le diable, il te bombarde. Eh bien, tu es triste, tu es malheureux, parce qu'il a accès à ta vie. Alors que si c'était la vérité, vous savez, la Bible dit que la vérité nous rend libre. On n'est pas stressé, on n'est pas inquiet, on n'est pas en mode défense, autodéfense toujours. Tu sais, quelqu'un qui dit, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Mais c'est faux. C'est faux parce que moi déjà, je l'aime la personne. Par définition, un chrétien, il aime son frère et sa sœur, il aime son prochain. Un chrétien, il ne peut pas dire, celui-là, je ne le sens pas. Est-ce qu'un chrétien peut dire ça ? Franchement, non, mais réfléchissons, on est là pour réfléchir, c'est bien, de temps en temps. Est-ce qu'un chrétien qui va au ciel, il peut ne pas pardonner, il peut dire, celui-là, celle-là, je ne la sens pas. Je ne l'aime pas, quoi. Mais non. On doit aimer. On doit aimer. Vous savez, des fois, il y a des maisons, ça m'avait marqué un jour, je faisais une mission dans le midi, et je me promenais, je prenais l'air, et puis je préparais mon sermon en marchant, et je vois une pancarte « chien méchant ». Je me suis dit, ça, c'est une bonne illustration. Ce n'est pas écrit « chien méchant » sur nos fronts. Ça doit être écrit « bienvenue ». Il y en a qui me regardent parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « tu m'as fait les gros yeux », tout ça. Ben, si je fais les gros yeux, des fois, c'est que peut-être il faut. Non, je blague. Donc, le père du mensonge. Les mensonges, parfois on est dirigé, on est conduit par des mensonges. On croit des mensonges. Les sectes. Les témoins de Jéhovah, la Bible parle des doctrines de démons, on va parler de ça plus tard. Les témoins de Jéhovah, ils croient que Jésus c'est l'archange Michel. Mais qui c'est qui a mis ça dans la tête ? Les gens qui quittent l'église parce qu'ils pensent que c'est mieux dans le monde, mais qui c'est qui a mis ça dans la tête ? Ah, les chrétiens, ils m'ont tous déçu, ils sont plus gentils les païens. Mais c'est faux ! Tu es trompé dans ta tête. L'église de Jésus, elle est belle. L'église ciel ouvert, elle est belle. Et si Satan, il te dit, mais non, il te ment, dors Satan. Au nom de Jésus-Christ, l'église de Jésus, elle est belle. Elle est pure, elle est sans tache, elle est sans rides, elle est fraîche, elle est conquérante, elle est vivante. Alléluia! Je proclame la vérité de la parole de Dieu. Dieu t'aime, Satan te hait, donc choisis le camp de Dieu. Amen. Mais bon, il ne faut pas que je prêche. Je réfléchis avec vous, on enseigne. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. C'est un menteur. Ce qu'il faut savoir en terminant, il me reste 2 minutes, concernant ses manœuvres et ses actions, je vous donnerai les notes si vous ne pouvez pas. Son action est universelle et toujours actuelle, malheureusement. Et elle durera jusqu'à la fin des temps. À un moment donné, il va être lié pendant 1000 ans, mais après, il sera délié. Mais après, il sera, bien entendu, jeté en enfer. Elle est toujours actuelle, son action, et universelle. La Bible parle... Bon, je vous donne quand même 2-3 trucs. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 18 et 19. Le monde entier. Ce n'est pas juste tel ou tel pays, le monde entier. Il séduit, Apocalypse 12, verset 9, toute la terre, pouvoir de ses, toute la terre, universelle et actuelle. Il continue donc de mentir, de tenter, de séduire, de ruser, de voler. Satan est un voleur. Le malin vient et il enlève la parole. C'est des petits oiseaux, c'est un voleur, il vole nos destinées, il vole notre pureté, il vole notre fraîcheur, il vole notre joie, il vole notre paix. C'est un voleur. Et il continue à voler, croyez-moi. il harcèle, il continue de harceler, c'est un harceleur. Il crible. Satan t'a réclamé pour te cribler. Des fois, on dit, bouh, j'ai l'impression d'être passé par la machine à laver. Il se déguise, il accuse, il rend malade. Il possède et il tue. Son action, toutefois, frères et sœurs, est limitée. Job 1, 12, Job 2, 6. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu pose des limites, heureusement. Imaginez sinon, des fois c'est vague après vague, une mauvaise nouvelle après moi. Non, Dieu nous connaît, il sait ce qu'on peut supporter et qu'on ne peut pas supporter. Quand c'est trop lourd, il dit, oh toi là tu vas faire un tour, c'est mon fils, c'est ma fille. Son action malgré sa défaite à la croix est toujours une réalité. Tiens, j'ai fini, mais je conclue, je prends un peu de rab. Ou j'arrête ou bien ? Ça fait une heure quand même, frères et sœurs. Non, mais 1h10 après, je regarde. Allez, je continue et on passera la prochaine fois. Attends, parce que j'arrive à la fin de toute manière. Hein? Oui, j'arrive à la fin. Donc son action, malgré... Là, j'ai un problème de conscience profond. est toujours une réalité, malgré sa défaite à la croix. D'accord ? Il ne peut pas toucher... Ben, je vais arrêter, frères et sœurs. Moi, j'avais dit, je faisais une heure. Je ne veux pas vous épuiser, je veux vous revenir. D'accord ? Donc, puis je reprendrai la prochaine fois. C'est les études, tu peux en faire jusqu'à le retour de Jésus. Donc, on a le temps. On a le temps. Voilà. Merci, Seigneur, pour cette heure. C'est déjà costaud. Voilà. Donc, c'est bien. Amen ? Amen. Voilà, on va terminer par la prière.
Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour ton enseignement, Seigneur, merci parce que tu fais du bien à nos cœurs ce soir. Et je te prie, Jésus, encore que, mon Dieu, les paroles, ce qu'on a entendu, Seigneur, l'enseignement qu'on a entendu porte son fruit dans nos cœurs. Je te prie vraiment également de ramener, mon Dieu, nos frères et sœurs qui ont été piégés, mon Dieu, par les mensonges du diable, que tu les ramènes dans la bergerie, que tu les ramènes dans ta maison, Seigneur, que tu bénisses, mon Dieu, notre soirée. Mon Dieu, je te prie encore qu'on puisse passer du temps de qualité dans le restant de cette semaine. Mon Dieu, bénis, mon Dieu, encore toute cette année. Bénis, mon Dieu, les futures études bibliques, Seigneur. Et je te prie d'attirer, mon Dieu, encore à toi des âmes nouvelles, Seigneur, qui puissent venir se faire du bien, mon Dieu, pendant ces études. Que ton nom soit glorifié encore. Amen.